Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter leur métier et découvrir ce qui les fait avancer au quotidien. Durant environ une heure, nous discutons de multiples sujets et de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est très simple, donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Loïc Moreau, ancien responsable éditorial de la société de statistiques Opta, co-auteur de deux livres sur les stats en Ligue des Champions et en Coupe du Monde chez Solar et actuel data journaliste chez RMC Sport. Nous sommes revenus sur l'émergence des stats dans le domaine du football, à la fois dans l'univers médiatique, mais aussi au sein des structures professionnelles. Nous avons également évoqué l'évolution de la data, les réticences face aux statistiques, mais aussi leur utilité, celles qui sont les plus pertinentes, ainsi que la différence culturelle entre les États-Unis et la France sur l'utilisation de la data dans le sport. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette conversation avec Loïc Moreau. Bonjour Loïc Moreau et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour Johan.
Alors dans ce podcast Loïc, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué? Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que tu as pu ressentir lors de ce match. Une sorte, j'aime bien dire que c'est une sorte de Madeleine de Proust à laquelle tu repenses de temps en temps à un bon souvenir.
Forcément, je pense tout de suite au final de Coupe du Monde, hein, 98... Et puis la dernière en 2018, les finales d'Euro, bien sûr, surtout celle de l'Euro 2000. Hein. J'ai jamais vu le but de Wiltord parce que j'étais dans ma chambre en train de tout casser. J'ai juste entendu mon père et mon frère hurler et là je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, j'ai peut-être manqué quelque chose. Mais si je devais en dégager un, je pense que je resterais sur mon club de cœur, l'Inter, et la finale de la Champions en 2010 contre le Bayern, parce que bon, je pense que quand on est supporter d'un club, le voir remporter la Champions, c'est un peu le must. Et c'est vrai qu'en plus, c'était un peu particulier pour moi, parce qu'à l'époque, j'étais à Naïsna, donc en Afrique du Sud, là où était l'équipe de France. Je m'occupais des journalistes français pour l'office de tourisme de là-bas. Et je venais d'arriver, et en fait, ce jour-là, non seulement j'étais tout seul, parce que mon coloc et ses potes étaient partis en week-end. Moi, je travaillais ce samedi. Et il y avait eu une coupure de courant. Toute une partie de la journée, et ma boss m'avait expliqué à l'office de tourisme, m'avait dit t'inquiète pas, ça arrive de temps en temps, ils coupent volontairement le courant pour éviter de faire chauffer trop les machines. Bon, voilà, c'est forcément en Afrique du Sud, il y a des endroits où c'est un peu plus compliqué que d'autres, et du coup en fait la coupure de courant, moi je pensais que ce serait quelques heures, ça a pris quasiment tout l'après-midi. Du coup je commençais à me dire est-ce que je vais l'avoir cette finale, ou est-ce que j'avais pas d'internet et tout, donc j'ai vraiment eu très peur de passer à côté de la finale en fait de ma vie, quoi. Et puis finalement donc je me suis retrouvé tout seul chez moi à regarder ce match, et c'était vraiment fou, parce que bon voilà, le scénario, la victoire. On n'est tellement pas habitué à célébrer un événement de ce type tout seul, parce que normalement, on est, voilà, quand on regarde un match de cette, de ce niveau. On est toujours avec des potes, tout ça, machin. Et c'est vrai que c'était assez particulier. Et puis, bon, bah voilà, la victoire au bout, bah, c'était fou. Donc, j'ai terminé, je chialais tout seul et j'écrivais des poèmes à José Mourinho. Enfin, c'était magnifique. Très particulier, mais magnifique. Et donc, je garderai celui-là pour si je devais en choisir qu'un seul.
Et tu restes très marqué du coup par l'aventure Mourinho, l'épopée Mourinho, l'ère Mourinho à l'Inter, comme de nombreux supporters de l'Inter.
Ah bah forcément, je pense que c'est celui qui a mis le club bah, sur le toit de l'Europe, mais pas seulement. Je veux dire, un triplé historique, une équipe qui était capable de faire déjouer les meilleurs, hein, notamment Barcelone. C'est vrai qu'il n'est pas resté très longtemps, mais il a marqué l'histoire du club. Et rien que pour ça, c'est vrai que c'est inoubliable. Et je pense que même les gens qui étaient pas forcément les plus favorables à son arrivée ou qui ont peu joué avec lui, on se souvient de Materazzi en pleurs à l'annonce de son départ. C'est vraiment quelqu'un qui a su transcender les joueurs qui étaient à l'époque portaient le maillot Nerazzurro. Et forcément, oui, il m'a marqué. Son passage restera jamais gravé dans l'histoire du club.
Alors avec toi, on va pas tant parler de football italien, mais plutôt de stats lors de cet entretien, tout au long de cette conversation. Alors la question, elle est peut-être un peu cliché, mais c'est totalement assumé. Alors déjà en préambule, on peut dire qu'on a travaillé ensemble, et c'est vrai que c'est quelque chose que je t'avais demandé déjà en direct. On a travaillé ensemble, non pas dans la même, enfin dans la même entité, dans la même entreprise, non pas dans la même sous-division, on va dire, de cette entreprise, mais pour travailler dans la data et manipuler les chiffres, parce que c'était une partie de ton job à l'époque. Est-ce qu'il faut avoir été bon élève en maths? Est-ce qu'il faut avoir été un élève assidu en maths pour manipuler autant de chiffres au quotidien?
Absolument pas, et j'en suis la preuve vivante. J'étais nul en mathématiques, mais nul, complètement nul. Non, ça a vraiment été un peu comment dire, mon cauchemar tout au long du collège-lycée. C'est sans doute pour ça aussi que j'ai fait des études littéraires. C'est parce que j'avais vraiment aucune affinité pour les mathématiques. Mais là, on est vraiment dans un domaine différent parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à Opta et puis ensuite que j'ai eu ce boulot là-bas, c'est vrai que j'ai découvert que les chiffres pouvaient être à la fois très attractifs et surtout apporter un lot de connaissances vraiment important. Et vraiment, j'ai beaucoup beaucoup aimé mon temps là-bas. Et j'aime toujours justement manipuler ces stats, comme tu disais. Et c'est vrai que voilà, je suis la preuve qu'il n'y a absolument pas besoin d'être bon en mathématiques pour faire ce genre de boulot. Il faut avant tout, je pense, la qualité première, c'est vraiment être passionné de foot. Et d'ailleurs, voilà, on retrouve aussi chez la plupart des passionnés cette fibre stats parce que les gens savent que ça fait partie du foot moderne.
Alors je pense que pour bien aborder cet entretien et pour que les auditeurs comprennent bien le monde de la stat appliquée au sport, il faut partir de la base. Et la base, c'est la collecte des données. Parce qu'avant de les utiliser, évidemment, il faut qu'elles soient récupérées. Comme tu as travaillé chez Opta, qui est pour nous Européens la référence absolue de la stat, notamment appliquée au football, est-ce que tu peux nous décrire le processus de collecte des données chez Opta. Et on va prendre un exemple hein, pour essayer de faire simple. Il y a un match PSG-OM. Comment ça se passe pour l'analyse et la récupération des données?
Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la collecte, elle se fait via le flux télé. C'est-à-dire que ce n'est pas une collecte qui se fait dans le stade, c'est une collecte qui se fait devant une télé et devant son écran d'ordinateur. Alors, c'est très simple. Pour un PSG-OM, par exemple, il va y avoir un bureau avec deux analystes. Chacun va avoir son ordinateur donc en face de lui, une télé donc qui va diffuser le match entre les deux. Et ils vont également avoir le match qui va être diffusé sur leur écran d'ordinateur respectif par Internet. Donc, ils sont juste devant le match, qu'ils vont bien évidemment regarder. Et à l'aide en fait d'un logiciel qui a été développé en interne chez Opta, Ils vont tracer des lignes, ils vont sélectionner des menus, ils vont cliquer sur des endroits du terrain pour marquer la localisation de la passe, la localisation du tir, du duel, du tacle. Alors c'est très impressionnant à voir, hein. Il faut le voir pour le croire, comme on dit, parce que ça demande une dextérité, une réactivité absolument hors norme. Et c'est
Il y a
vrai
une
que
formation de plusieurs semaines, hein, avant de pouvoir analyser.
plusieurs mois, parce que effectivement, c'est quelque chose. En général, sont des étudiants ou des gens qui font ça comme un deuxième job, des gens qui sont, comment dire, en général familiers aussi avec l'univers du gaming, un peu geek. Je dis pas ça du tout de manière péjorative, hein, au contraire, parce que ce sont vraiment des gens qui forcent l'admiration quand on les voit récolter en live, hein, parce que la plupart de la collecte se déroule en temps réel. Et quand on les voit justement jongler entre le clavier et la souris pour sélectionner les menus et pour rentrer toutes ces données qui vont directement dans la base de données d'Opta, c'est vrai que c'est un exercice absolument incroyable. Et comme tu disais, donc il y a un pôle qui est créé après plusieurs mois de formation. Et pour être sûr que chaque analyste soit vraiment à l'aise avec ce job-là, justement, on leur affecte une équipe en particulier. Par exemple, tu évoquais Paris-Marseille. La collecte de data pour la Ligue 1, elle est faite depuis l'Angleterre. Et donc, on aura sur le pôle d'analyste, on aura un analyste qui fera Paris toute la saison et un autre qui fera Marseille toute la saison. C'est-à-dire que ces deux analystes ne travailleront ensemble, entre guillemets, que deux fois pour le match aller et pour le match retour. Donc ça permet, parce que forcément, quand on est anglais, on n'est pas forcément fan de Ligue 1, on ne connaît pas forcément par cœur l'effectif du club qu'on analyse. Donc là, en affectant un analyste par club, ça permet d'être incollable, entre guillemets, sur le club en question.
Et puis ça permet aussi de repérer un peu certains gimmicks de joueurs et du coup au moindre coup d'œil. Alors déjà il y a évidemment les zones de jeu. Ce sera rare d'analyser Mbappé au poste de latéral droit, donc tu sais qu'il sera pas trop dans cette zone-là. Mais sur des coups francs, la manière de défendre par exemple, tu peux repérer à la coiffure, tu peux repérer à la position du corps, aux chaussures aussi, aux coloris de chaussures. Ça te permet effectivement quand tu suis sur toute une saison d'avoir au fur et à mesure engrangé pas mal de repères visuels qui doivent aussi faciliter ton travail d'analyse entre guillemets. Et quand tu dis il y a une personne pour l'OM et une personne pour le PSG sur un match par exemple PSG-OM, il y a aussi un superviseur, hein, c'est ça qui est derrière et qui regarde aussi le match en même temps.
Oui, exactement. Il y a ce qu'on appelle donc un data checker. C'est un troisième analyste qui fait un peu le tour des rangs lors des journées donc de championnat et qui s'assure que tout se passe bien. Donc, il faut savoir que les matchs, grâce au flux télé, sont enregistrés sur disque dur. Donc, il y a possibilité pour ce data checker, si par exemple, ça arrive très rarement, mais ça peut arriver, un des analystes a loupé quelque chose ou a besoin de revoir les images pour confirmation, parce que comme tu disais, forcément, il développe des réflexes de reconnaissance, hein, absolument fous, mais parfois ils sont humains, donc quelque chose peut leur échapper. Et là, le data checker va par exemple faire un petit retour rapide, histoire que l'analyste double-check son analyse, justement, et la corrige le cas échéant. Donc au final, le but, bien évidemment, c'est d'arriver très proche des 100% de réussite, hein, par rapport à l'analyse, c'est-à-dire de ne pas se tromper. Et pour être sûr de la qualité des données qu'il vend, ben, Opta va procéder à une deuxième analyse dans un deuxième temps. En général, ça se faisait lundi pour les journées de championnat de Ligue 1, donc la première journée après, le premier jour de la semaine après cette journée, et pour être sûr d'être à 99,9% d'exactitude. Donc voilà, après c'est Opta qui est très à cheval sur la qualité de ces données, et ça leur a permis aussi de s'imposer comme leader du marché. Mais effectivement, ces données, elles sont récoltées par des humains, et par des humains dont les qualités sont absolument folles et qui font le ciment de cette boîte.
Alors une fois que le match est terminé, la vérification a lieu comme tu l'as expliqué, et les stats sont stockés directement dans une, on va dire une base de données un peu géante hein, pour simplifier un peu la chose. Et dans cette société dédiée aux statistiques, qui est Opta, mais ça fonctionne aussi avec d'autres sociétés de stats, il y a ceux qui collectent la data, mais aussi ceux qui l'exploitent, c'est-à-dire ceux qui la collectent et qui l'envoient dans une base de données, et ensuite il y a ceux qui vont exploiter cette donnée. Quand tu étais chez Opta, justement, tu faisais partie de ceux qui étaient en charge d'éditorialiser les statistiques pour des clients. Alors les clients, quand on appelle des clients pour les fournisseurs de stats, c'est principalement des médias ou des clubs. Est-ce que justement entre ton entrée chez Opta, c'était en 2012, hein, si je dis pas de bêtises, et ton départ en 2018, t'as pu observer une augmentation de l'intérêt des clubs et des médias pour la data et son utilisation? Est-ce que t'as ressenti un frétillement vraiment continu sur l'exploitation de la data en France?
Ah oui, complètement. De toute façon, faut savoir que on partait déjà de loin en France, hein, parce que c'est vrai que contrairement aux pays anglo-saxons, la France, comme ses voisins latins, sont un peu à la traîne en ce qui concerne les stats et leur exploitation dans le sport. Donc, voilà, c'est vrai que le bureau français d'Opta a été créé en 2006, donc 6 ans déjà avant que moi j'arrive dans la boîte. Et c'est vrai qu'au début, il a fallu cravacher pour démarcher les clients et surtout les convaincre de l'utilité des stats, donc en l'occurrence, tu parlais des médias à juste titre, donc dans leur publication, de leur expliquer la plus-value que ça pouvait apporter. Donc on a commencé avec Canal+ et l'équipe. Bon, Canal+, on connaît aussi leur côté pionnier, leur côté novateur, donc il n'y a pas eu besoin de trop les forcer. Après, l'équipe, qui est un acteur majeur forcément, puisque seul Quotidien Sportif, c'était forcément un acteur qui a joué aussi un grand rôle dans la vulgarisation, on va dire, de l'utilisation des datas. Et puis après, effectivement, en 2012, bon, il y a Bein Sport. 2012, ça correspond à l'année de création de Bein Sport. Donc, on a eu la chance de pouvoir travailler avec eux quasiment dès le départ. Et puis, c'est vrai qu'entre 2012 et 2018, et même encore maintenant, le nombre de clients, que ce soit sur la partie média ou sur la partie pro, donc celle qui concerne les clubs, n'a cessé d'augmenter, hein. Je veux pas parler au nom d'Opta puisque je n'y travaille plus, mais à ma connaissance, Opta travaille avec tous les acteurs majeurs des médias français et beaucoup de clubs de Ligue 1, dont les plus renommés. Donc effectivement, il y a eu une évolution et je pense que cette évolution perdure et qu'elle va perdurer encore. Là, il y a un nouvel acteur qui arrive dans le jeu, donc des diffuseurs, et qui va sans doute également avoir besoin de stats, et Opta sera sans doute là aussi pour les lui fournir. Donc bien évidemment, oui, une évolution absolument absolument folle.
Sur le volet médiatique, justement, ton poste de data journaliste chez RMC Sport est d'ailleurs un parfait exemple de cette évolution et cet intérêt grandissant pour la stat. Du coup, quand quelque chose devient un petit peu tendance, c'est de coutume, pour tout, il émerge des résistances. Alors par résistance, j'entends des vents contraires, entre guillemets, ou des gens qui s'opposent à l'arrivée d'une nouvelle... on va dire sa fonctionnalité dans leur quotidien. Tu as remarqué sans doute comme moi que les critiques étaient de plus en plus présentes sur l'utilisation de la stat. Comment tu juges ça, qui est du coup data journaliste et qui en plus est passé par le côté fournisseur de stats, hein, chez Opta? Est-ce que c'est parce que pendant des années, on a servi de la stat un peu... alors c'était les débuts, donc c'est un peu facile de le dire aujourd'hui, de l'analyser de cette façon-là, mais... on a servi un peu de la stat banale, entre guillemets, le nombre de tirs, la possession de balles, ce genre de choses-là, et que certains sont restés sur ça en se disant, bon, bah, qu'une équipe ait fait 12 tirs et l'autre 8, qu'est-ce que ça m'apprend au final sur le match? Pas forcément grand-chose. Est-ce que tu penses que certains sont restés bloqués sur les premiers relais de stats qu'on a affichés à l'écran, etc.? D'ailleurs, ils les citent, hein, souvent, oui, bah, 12 tirs cadrés, ça veut rien dire. Si c'est des frappes molles que le gardien arrête facilement, ça veut strictement rien dire. Est-ce que tu penses que les résistances, elles émergent elles viennent de là?
Bah, je pense déjà que c'est forcément la raison de, enfin, la rançon de la gloire, pardon, entre guillemets. Forcément, il y a eu, comme tu le disais très bien, cette abondance de stats qui avait vraiment pris une place pleine et entière au sein des médias et même dans les débats de foot. Après, je pense que voilà, il y a forcément des gens qui les voient d'un œil un peu circonspect, soit par croyance pure, parce qu'ils n'y voient pas forcément une source d'information qui les satisfait, soit par posture. Donc, mais dans les deux cas, je pense que c'est dommage de ne pas voir en fait ce à quoi sert la stat, quelle est son essence. Encore une fois, c'est un indicateur, c'est un outil de compréhension du foot, un outil d'analyse, un outil pour approfondir, pour corroborer, pour aller plus loin en fait dans ce que voit l'œil nu. Et je ne pense pas qu'il s'agisse en fait des stats basiques, parce qu'encore une fois, on peut apprendre aussi beaucoup de choses avec les stats basiques, tir cadré, passe, possession. C'est toujours révélateur à partir du moment où c'est contextualisé. Et de toute façon, ces gens-là, en général, qui remettent en cause ces stats-là, ne sont pas plus en, n'ont pas plus d'appétence pour les stats, on va dire ce qu'on appelle les nouveaux metrics, donc les stats un peu plus poussées, celles qui sont plus qualitatives que quantitatives, et qui justement vont permettre de juger, entre guillemets, du danger d'un tir ou de la valeur d'un tir. Donc je pense que c'est entre guillemets un faux débat. Là, on est vraiment, je pense que la plupart des gens qui s'érigent en détracteur des stats le font par posture. Alors, pour quelle raison il faudrait leur poser la question? Mais quand on creuse bien, à mon sens, on ne peut pas être passionné de foot, en tout cas se dire passionné de foot, et écarter totalement les stats du jeu, parce qu'elles font partie, encore une fois, à part entière du foot de notre époque. C'est pour moi, voilà, c'est l'extrême en fait, c'est l'extrême opposé des gens qui ne voient le foot qu'au travers de la stat. Voilà, c'est deux choses à ne pas faire, c'est-à-dire on peut pas mettre tous les stats au pilori, dire que ça sert à rien, dire que c'est le cancer du foot comme on a pu l'entendre chez certains, et on peut pas non plus dire que voilà, c'est paroles d'évangile. On peut regarder un match à travers les stats et connaître son déroulé. On ne peut que se baser sur les stats pour dire ce joueur-là il est performant, celui-là ne l'est pas. Non, c'est pas possible non plus. Il faut, encore une fois, mais je pense que c'est un problème qui est plus global, hein. Ça touche pas les stats. Enfin, à mon avis, tu es bien placé pour le savoir aussi. C'est que dans la société, je ne veux pas faire de généralité, mais et dans le sport aussi, on voit que tout est très binaire. C'est soit je suis Cristiano Ronaldo, soit je suis Team Messi. Donc voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. En fait, on est soit pour, on est soit contre. Et ça, c'est conservé par les réseaux sociaux aussi, forcément, même si là encore, ils ont leur utilité. Mais tu vois, on est soit pour les stats, soit contre les stats. Alors que c'est pas le débat, en fait. C'est juste de savoir quelle place on leur accorde, quelles sont leur utilité, quelles sont leurs limites aussi.
Exactement. En fait, tout est une question de dosage. Moi, ce que j'aime bien dire, alors je suis très friand de stats, tu le sais. Pour autant, je base pas toutes mes analyses sur les stats. Ça me sert justement dans mon travail au quotidien, puisque je l'ai intégré de manière maintenant très régulière au quotidien, je peux le dire. Ça m'aide dans mes analyses. Ça peut m'aider aussi dans la compréhension du foot. Ça peut m'aider pour regarder un peu où en sont certains joueurs, certains clubs, etc. Mais ça ne va pas m'empêcher de regarder des matchs, en fait. J'aime bien dire que l'émotion et la chaleur de l'instant de l'analyse à l'instant T peut être confrontée à la froideur des stats, le côté mathématique, pour une analyse qui se veut quand même plus juste, plus objective, pardon, si on tentait, on peut avoir une analyse totalement objective ou dénuée de subjectivité. C'est comment on réussit, alors là je parle vraiment du level, enfin du niveau médiatique, pas du côté pro, c'est comment on réussit à faire le bon dosage entre notre analyse et ce qu'on voit, voilà, quand on regarde un match au stade, à la télé, peu importe, et derrière les datas qu'on peut récupérer par divers moyens, et qui te permettent de soit conforter ton analyse, soit parfois ça va t'ouvrir aussi d'autres biais. Et moi, je me suis déjà, ça m'est déjà arrivé de d'être devant un match, d'avoir une certaine idée de ce qui s'est passé, de voir des stats totalement opposées, et puis derrière de re-regarder le match avec ces stats-là. Et effectivement, tu revois des choses que tu n'avais pas forcément remarquées au premier coup d'œil, et les stats te permettent aussi de guider certaines choses que tu n'as peut-être pas vues à l'instant T. T'en as parlé un peu avec les nouveaux métriques. C'est pareil, c'est des mots qui font un peu peur, ça, quand tu utilises un peu des mots scientifiques. L'évolution des stats, on a parlé des tirs et des tirs cadrés, les stats, ce que j'appelle un peu banal. Est-ce qu'aujourd'hui, on réussit pas à éveiller une certaine conscience, à intéresser les gens grâce à ces nouveaux métriques? Je te reprends l'exemple des tirs, parce que pour moi, c'est assez flagrant d'avoir ce que je te disais, 12 tirs cadrés, si effectivement c'est des frappes de 30 mètres, parce que l'équipe n'arrive pas à se projeter dans la surface, à s'approcher du but adverse, ça n'a pas forcément beaucoup de, je trouve, d'intérêt. Et on est passé en l'espace de, allez, 2-3 ans, 3-4 ans, tu me corrigeras en termes de temporalité, mais des tirs et tirs cadrés à pouvoir analyser la qualité d'une occasion de but, avec les fameux expected goals. Même chose avec les gardiens, on est passé de. Bah, il a arrêté de tant de tirs. Alors, effectivement, quand il y a un très gros volume, ça veut quand même dire qu'il a été impliqué. Pour autant, trois arrêts en face à face par rapport à cinq arrêts sur des frappes molles de l'extérieur de la surface, ça ne dit pas tout de la performance d'un gardien. Mais par exemple, les expected saves t'aident aujourd'hui à ça. C'est des données qui, pour toi, favorisent un peu l'émergence toujours plus importante de la stat?
Alors, c'est vrai que le côté, le fait qu'on passe de stats purement quantitatives à des stats plus qualitatives, donc c'est l'exemple que tu donnais, passer par exemple des tirs aux expected goals, donc les expected goals, je fais juste une parenthèse, c'est la probabilité qu'un tir se transforme en but. Donc en gros, ça va juger de la valeur du tir. Ça va se baser sur tout un historique de milliers de tirs auparavant pour voir que si le tir a été fait à cet angle-là, à cette distance, et par le pied droit, le pied gauche ou la tête, ou à la suite d'un centre ou un ballon donné dans les pieds, voilà, tel tir sera plus dangereux que tel autre. Donc, bien évidemment, ça, c'est quelque chose de fondamental parce que je pense qu'on est tous à la recherche de stats plus qualitatives, comme tu l'as dit. Après, je serais pas aussi, je condamnerais pas aussi vite les stats basiques parce que pour moi, on peut quand même avoir toujours une information, on peut en tirer quelque chose. Je te donne l'exemple, par exemple, du Real Madrid cette saison en Champions League qui n'avait pas cadré un seul tir lors d'une de ses rencontres. Je ne me souviens plus l'adversaire, mais je sais que bon, voilà, ça avait fait parler. Enfin, la stat avait buzzé, comme on dit, j'aime pas ce terme, mais bon, voilà, elle avait été reprise un peu partout. Et bien évidemment, donc il y avait des gens qui l'avaient reprise pour dire « Oh là là, c'est incroyable, le Real a pas cadré un seul tir », et d'autres qui disaient « Oui, mais ça veut rien dire parce que zéro tir cadré, encore une fois, il peut y avoir un tir qui passe à ras du poteau, c'est un tir dangereux ». Mais en fait, encore une fois, il faut pas tout mélanger. Je pense que la stat basique, elle te dit zéro tir cadré. Ça, en soi, c'est déjà une information, surtout quand c'est pas arrivé depuis des lustres. Parce qu'encore une fois, la stat avait été mise en perspective pour dire, voilà, c'était plus arrivé au Real depuis des années, ou alors c'est la première fois que ça leur arrivait depuis une centaine de matchs. Bref, on parle quand même d'une équipe qui a régné sur l'Europe ces dernières années. Donc, pour moi, il y a déjà une première info là. Après, bien évidemment, on peut aller plus loin et c'est ce à quoi servent les nouvelles statistiques donc plus poussées qui vont permettre de déterminer la qualité d'un tir. Mais pour moi, il faut déjà bien maîtriser tous les concepts de stats basiques pour ensuite, après, apprécier ceux qui sont plus poussés. Mais effectivement, et là je te rejoins totalement, c'est-à-dire que pour juger par exemple de la prestation d'un gardien, avant on n'avait que les arrêts effectués, mais un arrêt effectivement ça peut être sur une frappe molle ou ça peut être un arrêt incroyable sorti de nulle part, et les clean sheets entre guillemets, donc un match passé sans encaisser de but, donc c'était un peu limité. Là maintenant, grâce aux expected saves, donc aux arrêts, la qualité des arrêts déterminée donc par rapport à la qualité du tir, c'est vrai qu'on peut aller plus loin et on peut simuler le nombre de buts qu'un gardien a évité de prendre à son équipe. Donc c'est bien évidemment beaucoup plus pertinent en termes d'analyse. Et on tend vers ça, que ce soit par rapport aux expected goals, donc par rapport à l'efficacité d'un joueur, par rapport aux expected saves, donc par rapport à l'efficacité d'un gardien, par rapport aux expected assists aussi, parce qu'il y a la même chose pour les passes décisives, qui détermine, entre guillemets, la qualité dans la créativité, on va dire, des passes. Donc on ne peut que s'en féliciter. Après, encore une fois, ces stats-là, le plus important, c'est de les utiliser au bon moment. Alors, comment on les utilise au bon moment ? Ça, encore une fois, et je reviens sur ce que tu disais, il faut impérativement regarder les matchs. Les stats ne se substituent pas au fait de regarder un match avec ses propres yeux. Mais encore une fois, avec ses propres yeux, on va regarder le match chacun d'une manière très subjective. On va passer à côté de beaucoup de choses. On va pas pouvoir regarder tous les matchs, encore une fois, alors que statistiquement, tous les matchs, en tout cas ceux des championnats majeurs, sont analysés. Donc, ça permet ensuite de faire des comparatifs. Ça permet de croiser les données. Donc, encore une fois, l'utilité des stats, elle est multiple. Elles ne remplaceront sûrement, enfin, sans doute jamais, et c'est tant mieux, l'œil humain, les émotions qu'un match de foot peut procurer, mais elles sont d'une utilité absolue pour justement la compréhension, pour vérifier un sentiment, pour aller plus loin dans l'analyse justement d'une impression, d'une sensation, pour vérifier tout simplement, pour essayer de poser un chiffre sur quelque chose qui n'en a pas, tout simplement.
On disait...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tout à l'heure que la stat, elle était encore un peu jeune, entre guillemets, dans le football, on va dire, français, et puis tu parlais des pays latins tout à l'heure, en opposition avec les pays anglo-saxons. Les sports US, alors on parle de la NBA, de la NFL, de la NHL, étaient bien en avance. Est-ce que pour toi, il y a un facteur qui pourrait l'expliquer, qui est la culture du sport, entre un besoin de performance qui est très assumé aux États-Unis, un professionnalisme très jeune dans la performance sportive, et puis en Europe, et notamment dans les pays latins, l'Europe du Sud, des références qui sont plutôt liées quand même au loisir, au plaisir dans la pratique sportive. Est-ce que pour toi, il y a un lien de cause à effet dans notre approche et dans l'arrivée tardive, entre guillemets, de la stat?
Ah oui, complètement. Il y a vraiment une différence culturelle, comme tu l'as très bien évoqué. On voit bien la différence d'approche, vraiment, pour le coup, culturelle, hein, à tous les niveaux des pays anglo-saxons, notamment l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et les États-Unis, et nous, par exemple, la France, l'Italie, l'Espagne. Et le rapport au football, le rapport au jeu n'est pas le même. Pour preuve, Opta, qui est donc une entreprise à la base anglaise, a été créée en 1996. T'imagines un petit peu, alors que comme je disais par rapport à sa branche française, en fait, elle n'est née qu'en 2006, et peut-être encore plus tard pour l'Italie et l'Espagne. Et c'est vrai que les Anglais ont toujours eu une appétence particulière pour la stat, pour la performance, effectivement. Donc, ils ont très vite rationalisé tout ça avec des chiffres. On se souvient aussi, par rapport aux États-Unis, donc du basket, le basket qui est vraiment un sport de stat. À la limite, on pourrait même, c'est pas bien de le dire, mais en lisant juste la fiche de stat, on voit à peu près ce qui s'est passé dans le match. Donc, on n'a pas, limite, pas besoin de regarder le match de basket, alors qu'avec un match de foot, c'est totalement l'inverse. Il peut y avoir, par exemple, une possession énorme pour une équipe, un nombre de tirs et de tirs cadrés complètement fou, une domination à peu près dans toutes les catégories stats, et finalement, l'équipe en question a perdu 2-1. Parce que voilà, les stats ne s'appliquent pas de la même manière, effectivement, au football qu'aux autres sports, notamment au sport US. Et c'est vrai qu'il y a eu, je pense, une, alors j'irai pas jusqu'à dire une réticence, mais longtemps une méconnaissance en France de cet aspect, en fait, aux États-Unis ou en Angleterre, est considéré comme faisant partie d'un tout, en fait. Les stades font partie du sport. Il n'y a pas, on les scinde pas en deux. On ne fait pas de distinguo. Sport rime avec stade. Et nous, c'est vrai que sport rime davantage avec loisirs, avec effort physique, avec mouiller le maillot, grinta, tout ça, quoi. On n'a pas du tout la même approche. Et on le voit encore, même maintenant. Même maintenant, les Anglais sont déjà. Parce que tu parlais tout à l'heure, et à juste titre, de ces termes qui font peur, un peu expected goals, expected assists. On a l'impression qu'on essaye d'intégrer, je sais pas, de la science en fait dans le foot, d'en faire une espèce de discipline scientifique. Mais c'est simplement que ces termes sont anglais parce qu'ils ont été inventés par les Anglais. C'est comme ça. Et puis après, ils sont difficilement, il faut bien l'avouer, retranscriptibles dans notre langue. Hein. C'est très dur de traduire les buts attendus, mais qu'est-ce que ça veut dire but attendu? Alors que pour l'anglais, expected goals, il n'y a même pas besoin de lui donner la définition, ça va faire tilt tout de suite. Donc encore une fois, tu vois, c'est là où il y a vraiment toujours un gap qui, à mon avis, ne sera jamais comblé, parce qu'encore une fois, on est dans une question culturelle et une question d'approche du sport et en l'occurrence du football. Il y a une véritable différence entre les anglo-saxons et nous. Et après, bien évidemment, on essaye aussi parce qu'on regarde ce qui se fait à l'étranger et parce que les diffuseurs font un peu aussi, par rapport à la concurrence, veulent toujours innover et puis apporter des nouvelles choses. Et c'est vrai que on essaye de faire comme les autres, mais on n'y arrive pas souvent très bien. Et c'est peut-être aussi ce qui a provoqué ce que tu disais, pas mal de réticence au début en disant oui, mais c'est quoi ces chiffres? Enfin, ça passe sa place dans les débats footballistiques, alors qu'en fait, si, parce que quand tu regardes bien la stat, encore une fois, c'est pas un ensemble homogène. La stat, tu as des stats historiques, tu as des stats de performance, tu as des stats de comment dire, de performance physique, donc avec le tracking, par exemple, les kilomètres parcourus, les sprints. Mais quand tu prends, par exemple, les 1000 buts de Pelé, c'est une stat, ça aussi. Et c'est une stat, elle ne date pas des années 2000, hein, c'est une stat, voilà. Sauf que encore une fois, 1000 buts, c'est pourquoi ça parle, c'est parce qu'on se dit 1000, on se dit waouh, c'est incroyable. Mais en fait, elle veut pas dire grand-chose, cette stat. Ce qu'on ne sait pas, encore une fois, par rapport à l'époque, on ne sait pas qu'est-ce qui était compté, qu'est-ce qui n'était pas compté ou quoi. Mais tu prends aussi les 13 buts de Juste Fontaine à la Coupe du Monde, tu vois. C'est une performance qui date de 58. 58, voilà, les stats, bon, un peu rien à faire. On en a même parlé, on a eu la chance de rencontrer Juste Fontaine quand on avait fait le bouquin sur la Coupe du Monde. Et il nous l'a dit, enfin. À l'époque, les stats, voilà, on s'en fichait, mais maintenant, je suis le plus heureux d'avoir ce record-là. Et 13 buts, et qui sera sans doute jamais battu, parce qu'en tout cas, il ne le sera pas par Messi ni Ronaldo, visiblement. Et malgré tout, tu vois, c'est une stat de 58, et pourtant, ça reste, enfin, c'est historique. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire du football. Donc, les stats, c'est comme beaucoup d'autres éléments qui entourent ce sport. En font vraiment partie intégrante. Et je pense que, voilà, peut-être comme tu disais, il y a une espèce de. Les gens sont de plus en plus éduqués à ça, parce que forcément, il y a de plus en plus de jeunes aussi qui auront, entre guillemets, vécu toute leur vie de fans de foot baignés par les stades. Donc, les générations futures vont sans doute avoir une approche différente de la nôtre. Mais c'est vrai que même dans nos générations à nous, donc on va dire les gens nés dans les années 80, on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de réticence encore.
On parlait de la difficulté de comparer le football au sport US, justement. C'est aussi lié au fait que les sports US sont des sports avec des phases arrêtées très nombreuses. On appelle ça des sports de coupure, de pause, avec beaucoup de mise en place, de système, etc. Est-ce que tu penses que la data, elle peut aider à révolutionner le football qui n'est pas dans cette lignée-là? Évidemment, c'est pas un sport de pause ou de coupure. Mais ça permet d'insister notamment sur les phases arrêtées, puisqu'il y en a, comme les coups francs, les corners, les touches. On le voit d'ailleurs avec l'arrivée de spécialistes, hein, des phases arrêtées dans les staffs techniques des plus grands clubs. Et puis je vais te donner quand même quelques stats à nos auditeurs que toi tu connais évidemment, mais lors de la Coupe du Monde 2018, Il y a eu 70 buts sur coup de pied arrêté en 64 matchs. C'est donc 42% du total de buts qui a été inscrit sur coup de pied arrêté. 45 buts sur corner lors de la Ligue des Champions 2017-2018. Et puis, la stat peut aider aussi à progresser, à s'améliorer sur les phases arrêtées. Je reprends, il y a des références dans le livre de Ben Littleton qui s'appelle 11 mètres, la solitude du tireur de penalty, je crois, le titre exact, qui t'explique notamment le penalty parfait sur la base d'une étude statistique de milliers de penalties tirés. Justement, cette stat-là, là où on passe du côté médiatique au côté professionnel, elle t'aide aussi à améliorer ta performance. Parce que si demain, tu vas vers ton attaquant tireur de penalty et tu lui dis « Bon, écoute, en fait, on va arrêter de faire des tirs à l'instinct, oublie ton instinct et on va dire que tu as 79% de chances de marquer quand tu tires au centre. Et le gardien qui reste au centre lors d'un penalty, ça arrive dans 6% des cas parce que globalement, psychologiquement, un gardien, il se dit « si je plonge pas, je passe pour un con ». Et si je plonge et que je l'arrête pas, bon, on dit « bah au pire, tant pis, il l'a pas arrêté, il est parti du mauvais côté ». Donc la stat, elle peut aussi aider avec tout un système de probabilités, parce que la performance, c'est aussi des probabilités. Tu as tant de chances de marquer avec ça, tu peux marquer plus facilement si tu fais tel geste ou tu tires à tel endroit. Ça peut aider aussi la stat à améliorer la performance dans les clubs.
Mais tu l'as parfaitement résumé, Johan. En fait, c'est ça, c'est aider. C'est la stat peut aider. Et après, c'est tout. Elle peut aider. Il n'y a pas, encore une fois, tu vois, par rapport aux détracteurs, je ne veux pas m'éterniser sur eux, mais simplement, c'est juste ça, la stat. Il ne faut pas lui faire, lui conférer un rôle qu'elle n'a pas. Elle a un rôle, c'est aider. Et ça peut effectivement prendre plusieurs formes. Tu parlais de l'analyse, donc par rapport aux médias, ça peut leur permettent effectivement d'étayer, de vérifier, d'aller plus loin dans l'analyse. Mais par rapport à la performance, pour rester sur ce domaine-là, ça peut aider. Alors, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais on a les exemples pour et contre, par exemple. Donc, si on prend des clubs, tu vois, Brentford, par exemple, là, qui est bien parti pour monter en Première Ligue, donc en Angleterre, c'est un club qui a décidé de tout miser sur la stat. Bon, visiblement, ça marche. Ça aura pris plusieurs années, mais ça marche. Ça ne veut pas dire que ça marcherait dans tous les clubs, encore une fois. Là, ça fait un peu écho à l'exemple de Moneyball au football américain, donc avec Billy Bean et son équipe qui a, pareil, basé toute sa stratégie sur les stats et qui a joué donc les finales de championnat donc au début des années 2000. Donc là, voilà, Brentford, c'est ça. Toi qui es en plus spécialiste du football scandinave, si je te dis Midtjylland, oui. Club danois, ça va te parler, hein, champion du Danemark, si je dis pas de bêtises, il y a quelques temps.
Et en tête du championnat actuel.
Voilà, donc qui a aussi basé sa stratégie là-dessus. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faille que tous les clubs fassent de même, mais quand c'est pensé, quand c'est bien structuré, quand ce sont des gens qui ont un vrai projet et qui réussissent justement à prendre le contre-pied parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter les meilleurs joueurs, et ben ils vont peut-être se pencher sur un recrutement axé davantage sur la stat pour choisir leurs joueurs. On a des exemples, hein, N'Golo Kanté à Leicester, recruté donc via ses stats fournies à Leicester par Opta, et on connaît la suite, champion d'Angleterre la saison suivante. Après, il y a aussi des contre-exemples. Je me souviens de Stewart Downing, ancien international anglais, qui avait fait belle impression à Middlesbrough. Après, il part à Aston Villa. Il fait une très bonne saison à Aston Villa. Et du coup, Liverpool, qui cherchait un joueur à la fois créatif et capable de marquer des buts, se dit, bon, ben voilà, en se basant sur les stats, encore une fois, se dit, ah ben Downing, en gros, il remplit toutes les cases. En plus, il venait de prendre Andy Carroll, qui était un joueur qui, enfin voilà, où ils se sont dit, bon, ben si le mec fait centre, Downing, c'était un joueur de côté, je précise. Donc, si Downing centre beaucoup et crée beaucoup d'occasions suite justement au coup de pied arrêté ou au centre dans le jeu, eh ben ça ne peut que fonctionner avec Carroll. Bah ouais, bah zéro passe, zéro but pour Downing lors de sa première saison avec Liverpool. Et Carroll, voilà, je crois que c'est deux buts cette saison-là. Bref, un raté total. Comment l'expliquer ? Si on regarde juste la fiche de stats, on se dit, mais c'est pas possible. Comment il a pu passer de justement top player, on va dire, dans certaines catégories stats, à zéro pointé. Après, voilà, c'est encore une fois, les stats n'ont pas vocation à être infaillibles et à dire forcément la vérité. Peut-être que Liverpool, c'était trop grand pour lui. Peut-être qu'il n'a pas réussi à s'intégrer. Peut-être que ça n'allait pas dans sa vie à ce moment-là. Enfin, voilà, encore une fois, là. C'est là que la dimension psychologique entre en jeu et où on voit effectivement que les stats toutes seules ne peuvent rien. Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport au coup de pied arrêté. Effectivement, on a beaucoup moqué Liverpool quand l'année dernière, quand ils ont recruté un spécialiste des touches.
Ouais, exactement.
Bah voilà, champion d'Angleterre, enfin vainqueur de la Champions, champion d'Angleterre sur deux saisons. Donc encore une fois. Quand on a les moyens de se le permettre, parce que tout le monde n'aurait pas les moyens de se le permettre, je ne pense pas, sans leur faire offense, que Guingamp on va dire Lecce puisse se le permettre. Mais bon, Liverpool, on est tellement dans la recherche de la performance et ça se joue à tellement à des détails tellement infimes que maintenant, si il y a un domaine qui peut être amélioré avec de la data. Par un club qui a les moyens qui peut se le permettre financièrement, ben voilà, encore une fois, ça peut faire la différence. Et pour finir sur les coups de pied arrêtés, on a aussi des exemples très concrets. Tu te souviens forcément de Van Gaal qui fait rentrer Tim Krul à la séance de tir au but, je crois que c'est contre le Costa Rica.
Exactement, ouais.
En 2014, et avec, voilà, encore une fois, il ne l'a pas fait, tu connais bien Van Gaal en plus, donc tu sais bien qu'il ne l'a pas fait comme ça, hein, sur un coup de tête. C'était bien pensé, Krul, voilà, c'était, même si bizarrement, ses statistiques en première ligue sur les pénalties, elles n'étaient pas si terribles que ça, dans cet exercice, par rapport au stats, il avait jugé qu'il était. Il était, comment dire, meilleur que Cillessen, je crois. Hein, c'était
ouais, c'est ça.
Dans les buts. Et du coup, voilà. Bon, après, il y a le choc psychologique qui amène. Et à l'inverse, tu prends Barthez lors de France-Italie en 98. Je crois que c'est Philippe Bergerot qui lui avait fait une liste des côtés préférés, tu sais, des différents
des joueurs italiens.
Voilà, des joueurs italiens. Il l'a pris, il l'a déchiré, il a dit « moi, je le fais au feeling ». Et dans les deux cas, il y a victoire au bout. Donc encore une fois, ça veut pas dire, les stats veulent pas dire que tu vas forcément gagner, et ne pas les avoir ne veut pas dire que tu vas perdre, et inversement. Donc c'est pour ça que ça reste une aide à la performance, comme tu l'as parfaitement résumé, une aide à la performance, c'est tout. Donc pour un club, pour un aspect spécifique, donc les coups francs, les touches, les corners. C'est vraiment ça se résume à ça et à rien d'autre.
Justement, on parlait de, alors je crois qu'il s'appelle Peter Groenemark, si je dis pas de bêtises, le spécialiste des touches qui a bossé avec Liverpool. On a cet exemple là, on a l'exemple aussi en France, on a eu l'exemple de Pascal Grosbois qui était spécialiste coup de pied arrêté à Angers. Bien avant, on a eu en Italie un spécialiste qui s'appelait de mémoire, mais j'ai peur d'écorcher son nom, je crois que c'était Giovanni ou Gianni Vito, ou Vio, quelque chose comme ça, qui a bossé à Catane et à la Fiorentina, qui marquait beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. On a des exemples très positifs, du coup, de l'utilisation de la data appliquée au schéma de jeu sur phase arrêtée. Est-ce que tu as le sentiment que ça va du coup se développer à l'avenir? Tu disais, c'est pas pour tout le monde, forcément. Mais est-ce que tu as le sentiment que de plus en plus de clubs vont quand même faire appel à ces mecs-là grâce à la réussite d'exemples qui ont bien marché, à la fois dans l'utilisation des données, ça c'est le, on va dire c'est plutôt le job d'analyste vidéo, mais aussi dans la mise en place. C'est peut-être là qu'il y a quelque chose à faire, c'est embaucher des spécialistes pour la mise en place de solutions sur le terrain, parce que au final, analyser les données, je veux dire que pour un staff technique, c'est à la portée un peu de tout le monde. Créer des schémas vraiment très spécifiques, il faut vraiment s'y intéresser de très très près.
Ah oui, complètement. Et effectivement, dans cette course, encore une fois, à la performance, ce sont les clubs les plus fortunés qui vont forcément virer en tête. Hein. Ça, c'est toujours pareil. Manchester City est réputé pour être un club qui part, je veux dire, avec une longueur d'avance déjà en termes d'études de la performance. Liverpool, voilà, on l'a évoqué par rapport aux touches, et c'est vrai que encore une fois, hein, on parle de clubs de première ligue, de clubs anglais, Je pense pas qu'on ait l'équivalent en France. Je sais que chez les analystes vidéo, effectivement, il y a eu un sacré frémissement, puisqu'il y en a beaucoup de clubs s'en sont dotés, et tant mieux. Mais je pense que là encore, le chemin est long avant de voir des gens avec des profils peut-être plus spécifiques arriver dans ces clubs-là. Et puis, il faut garder à l'esprit, et ça, c'est encore une fois, sans vouloir accabler non plus le foot français, parce qu'il y a beaucoup de choses magnifiques, mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer encore, je pense, en tout cas, c'est ce que je ressens de par les discussions avec différents personnages, différents acteurs du foot français. On a encore du mal à accepter que des gens qui ne viennent pas du foot puissent avoir une expertise dans certains domaines, de par leur formation, de par leur background, de par leurs idées novatrices. Et c'est vrai que bon, quand déjà t'as des réflexions comme quoi, ah oui, mais si t'as pas joué au foot, tu peux pas, en gros, tu peux pas parler, tu peux pas commenter, tu sais pas ce que c'est, tout ça. Bon, déjà, tu vois, ça veut dire que en gros, il y a un mur qui se dresse. Ça veut dire que toi, t'es pas légitime pour dire quoi que ce soit, pour analyser quoi que ce soit. Il faut obligatoirement avoir été joueur pour pouvoir le faire. Et pourtant, c'est dommage parce que on l'a vu dans d'autres sports, c'est souvent en croisant les talents qu'on arrive à innover et justement peut-être à faire la différence par rapport à l'adversaire. Alors bien évidemment, ça a un coût, encore une fois. Tous les clubs ne peuvent pas se payer un analyste vidéo, ne peuvent pas se payer des gens qui travailleraient spécifiquement là-dessus. Mais encore une fois, comme l'expression le dit, quand on n'a pas de pétrole mais on a des idées, bah parfois c'est vrai que ces idées-là, qui apparaissent séduisantes sur le papier, on aimerait bien les voir mises en place dans des clubs de notre championnat, en Ligue 1 ou même peut-être en Ligue 2, pour essayer de voir cette méthode pourrait fonctionner. Et on voit à l'étranger que ça fonctionne avec Brentford, avec Midtjylland, encore une fois, même peut-être avec d'autres, hein, qui sont un peu plus... secret, enfin, dont on a moins connaissance, mais ouais, je pense que ce serait quelque chose d'intéressant de voir vraiment des profils très spécifiques, effectivement, sur certaines phases du jeu, arriver dans un club. Et encore une fois, il faudrait que l'entraîneur en place soit aussi réceptif, parce que voilà, c'est pas toujours le cas. Effectivement, c'est souvent pour que ce travail paye, il faut s'inscrire dans au moins à moyen terme, voire à long terme. Et c'est vrai qu'avec l'instabilité qui en général frappe les entraîneurs de Ligue 1, c'est pas toujours évident. T'évoquais Angers tout à l'heure avec le spécialiste justement des coups de pied arrêtés, je crois, hein, c'est ce que tu disais.
Exactement. Bon,
Angers, c'est Stéphane Moulin, il est là depuis 2011, il est installé. Enfin voilà, on peut travailler sur le long terme avec Angers et avec Stéphane Moulin. Après, c'est plus compliqué quand on est un club un peu instable, même dans les grands clubs, hein, comme Paris par exemple, ou Marseille, on voit bien. Les entraîneurs font quoi, une saison, deux saisons, ils sautent. Après, voilà, encore une fois, c'est du travail de longue haleine, c'est du travail de l'ombre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas se voir avant un certain temps. Parce que contrairement aux stades qui sont dans les médias, tout ce qui entoure le monde pro et les clubs, c'est très confidentiel, parce que bien évidemment, encore, on est dans la recherche de la performance, et dans la recherche de la performance au détriment de l'autre, forcément, puisqu'on veut être le meilleur. Donc ça reste très secret. Donc voilà, c'est du travail de fond, et effectivement, ce serait vraiment, enfin, je trouve que ce serait vraiment intéressant de voir ça mis en place dans des clubs de Ligue 1.
Alors, petite rectification, puisque j'ai retrouvé mes notes, que j'avais perdu le temps de mon passage précédent. C'est pas Peter Gronemark, mais Thomas Gronemark, qui est le spécialiste des touches à Liverpool. Et puis le spécialiste coup de pied arrêté de la Fiorentina, alors, de mémoire, c'est l'époque Vincenzo Montella, donc ça doit remonter à 2012-2014 par là. C'était bien Gianni Vio. Dans l'analyse des matchs que tu peux faire, du coup, Loïc, à la fois grâce à ton background à Opta et puis maintenant ton poste de data journaliste, quels stats, quels indicateurs, quelles métriques te semblent aujourd'hui les plus pertinents? Qu'est-ce que tu peux conseiller pour des auditeurs qui veulent s'intéresser de plus près à l'analyse statistique? Quelles métriques te semblent aujourd'hui les plus intéressants à regarder une fois qu'on a vu un match?
Alors après, encore une fois, tout dépend du match. Hein. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est surtout essayer de trouver la bonne stat par rapport au scénario du match. Si on voit qu'en termes de possession, par exemple, une équipe qui est habituée à l'avoir ne l'a plus, essayer de voir peut-être à quand remonte la dernière fois où elle a eu peu de possession. Essayer de voir pourquoi. Est-ce que c'est l'adversaire en face qui l'a fait déjouer, ou est-ce que c'est elle qui n'arrive pas à garder le ballon, par exemple. Donc, je pense que voilà, il y a encore une fois, chaque stat est pertinente à partir du moment où elle est utilisée dans un contexte pertinent. Après, sur les stats en particulier, je pense que il est très intéressant effectivement d'aller vers les stats qualitatives, parce que comme tu disais, là pour le coup, ça permet de déterminer la qualité, d'aller plus loin. Dans l'analyse en fait de la qualité d'un tir, d'une passe décisive ou d'un arrêt. Et là, je sais que Kopta travaille sur une espèce de nouvelle stat qui, si tu veux, permet de voir à quel point le joueur est impliqué est à l'origine des séquences. Ouais. C'est-à-dire les joueurs qui initient vraiment une séquence qui va terminer par un tir. Donc en fait, on est à l'étape au-dessus de la passe décisive. Donc là, on n'est plus dans le dernier geste, on est vraiment dans l'élaboration d'une séquence de jeu, dans l'élaboration du jeu de l'équipe. Quoi. En fait, on va vraiment s'intéresser au côté créatif. Et celle-là, cette stat me plaît beaucoup parce que justement, elle permet peut-être de mettre en lumière des joueurs de l'ombre qu'on a du mal à valoriser entre guillemets en termes de chiffres. Parce que c'est un joueur qui ne marque pas, ou c'est un joueur qui ne fait pas beaucoup de passes décisives de par son poste. Et au final, c'est un peu difficile des fois de juger quand on est à l'origine en fait, d'une action. Donc je trouve cette stat intéressante. Après, voilà.
Mais c'est vrai que si, pour parler de la créativité, si on arrive à, enfin, pour évaluer la créativité d'un joueur ou son importance dans un collectif en phase de construction de jeu, par exemple, c'est vrai que si on arrive à avoir un modèle qui regroupe la passe décisive, la fameuse seconde assist, les slow paces qui te permettent de voir les passes verticales. Alors après, il y a d'autres modèles, hein, par exemple sur Wyscott, t'as les smart paces. T'as les deep completion aussi. Si t'arrives à avoir un modèle qui te permet de regrouper un peu tout ça, de le calibrer, de le pondérer, etc., et qui te permet justement, effectivement, comme tu le disais, de pouvoir juger de l'importance du joueur dans l'élaboration du jeu, ça peut être une vraie avancée pour mettre en avant peut-être des joueurs qui passent au travers des radars, parce que peut-être qu'il fera pas de passe décisive, mais qu'il est très important sur le début de l'action, en cassant une ligne de pressing, en éliminant trois joueurs. Ça, aujourd'hui, c'est difficile de le quantifier.
C'est très difficile, et en plus, tu vois, souvent, c'est vrai que je prends un David Silva, par exemple. Alors, c'est à la fois un bon et un mauvais exemple, mais bon, il stade fort, on va dire, hein, comme on dit, but passe D, il stade fort. Mais pourquoi ? Parce qu'il joue à Manchester City. Donc forcément, il joue dans une équipe ultra offensive où il va avoir des positions préférentielles. Mais moi, justement, grâce à cette stat, ce qui m'intéresserait, ce serait un espèce de David Silva, mais à Dijon, par exemple, ou à Lille. Tu vois, voir un peu, justement, quelqu'un qui est dans une équipe qui ne joue pas forcément l'offensive, qui n'est pas forcément reconnu pour sa possession de balle, de voir justement comment ce type de joueur arrive à impulser quelque chose. Tu vois, aller plus loin. Je sais que Benjamin André, quand il était à Rennes, alors c'est vrai que cette stat à proprement parler n'était pas encore vraiment utilisée, mais c'était quelqu'un qui créait beaucoup d'occasions, et pourtant il partait de loin, tu vois, c'était mais quelqu'un qui récupérait aussi beaucoup de ballons, donc il avait un rôle assez central. Pourtant, bon, c'est pas le premier nom auquel on pense quand on parle d'un joueur, on va dire, à l'origine, un joueur qui impulse.
Un joueur créatif, ouais.
Donc, encore une fois, je pense que ces stats permettront effectivement de mettre en valeur des joueurs qu'on ne voit pas, ou dont on ne voit pas forcément l'abattage, ou dont on sous-estime peut-être l'abattage, parce que forcément notre œil ne va pas être attiré directement vers eux. Et tu as évoqué de manière tout à fait juste justement les différentes sous-catégories qui sont dans cette stat. Donc, c'est-à-dire que c'est une stat qui en regroupe plusieurs. Mais le but, c'est d'arriver effectivement à chiffrer ça. Et je pense que quand vraiment ce sera le cas et que la stat sera un peu vulgarisée, parce que encore une fois, comme toutes les stats, c'est quand même avec les expected goals ou les autres nouveaux metrics, il faut un certain temps déjà pour comprendre la définition, parce que là pour le coup, c'est vrai qu'on est passé à la phase 2, hein. C'est pas un duel, c'est pas un tacle, c'est une notion où il y a une définition précise et une définition qu'il faut apprendre, parce que c'est pas naturel, ça nous vient pas tout de suite à l'esprit. Moi, il m'a fallu un certain bout de temps avant d'appréhender les expected goals, de savoir comment la valeur était calculée. Et là, c'est pareil, il va falloir l'apprivoiser gentiment. Mais encore une fois, après, une fois que ce sera fait, je pense qu'on pourra en apprendre encore davantage. Et là, on est vraiment, encore une fois, dans le qualitatif. Donc, ça aide vraiment à apporter. Il y a vraiment cette notion de qualité dans les gestes.
Alors, tu parlais du nouveau modèle que met en place Opta. On arrive au bout de l'entretien. Jusqu'où peut aller la stat, la data? Jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où on peut aller dans les sous-catégories? Jusqu'où on peut aller en profondeur dans l'analyse des événements?
Là, je vais être très, très honnête, hein. J'ai pas du tout la prétention de pouvoir répondre à cette question de manière tout à fait, tu vois, catégorique, hein. Je pense que tout est lié à la technologie. Pourquoi les stats, pourquoi maintenant on a des nouveaux metrics qui permettent donc d'avoir des stats plus qualitatives que quantitatives? C'est aussi parce que la technologie suit. Pourquoi maintenant on peut traquer les joueurs de manière beaucoup plus précise, donc c'est-à-dire calculer leur nombre de kilomètres parcourus, leur nombre de sprints, mais aussi les efforts qu'ils font, donc c'est-à-dire des sprints au-delà de 22 km/h. Donc on a affiné, hein. C'est plus simplement un sprint, il y a les sprints basse intensité, moyenne intensité, haute intensité. Mais tout ça est permis parce que la technologie suit. Et je pense que plus elle va se développer, plus les stats vont suivre derrière. Alors après, effectivement, dans la performance, est-ce qu'on va pas aussi voir un rapprochement avec le domaine médical, peut-être? Alors, avec tous les garde-fous, hein, qu'il faut y mettre, bien évidemment, parce que voilà, encore une fois, là, on touche à quelque chose de très très sensible. Mais peut-être voir par rapport aux efforts, par rapport à la gestion des efforts durant un match, par rapport au déplacement d'un joueur qui soit davantage scruté pour voir un peu quelle densité il couvre, quelle densité de terrain il couvre. Donc voilà, ça ce sera, à mon avis, ça va se comment dire, se vulgariser une fois que la technologie sera davantage pointue. Une fois que les joueurs seront dotés, on peut imaginer que demain ils soient tous dotés de balises GPS et que tous leurs mouvements soient retranscrits justement de manière visuelle, et qu'on puisse en un coup d'œil voir à peu près quel a été le cheminement du joueur, s'il a essayé de libérer des espaces, s'il a fait des appels. Pour l'instant, voilà, on est beaucoup sur les stats, et d'ailleurs Opta ne s'en cache pas, hein, l'a toujours dit. Opta est une entreprise qui analyse les stats avec le ballon
Ouais.
et non pas sans le ballon. Mais voilà, on est encore à l'âge de pierre en ce qui concerne tout le jeu sans ballon, et pourtant il représente une part absolument vitale du jeu, hein. Les appels, le jeu en profondeur, les décalages, le déplacement des lignes. Donc c'est vrai que là on n'a pas de données dessus, on n'arrive pas vraiment à chiffrer ça. Donc voilà, je pense peut-être dans ces catégories encore où on est très peu renseigné. Mais encore une fois, ce sera forcément tributaire de la technologie, parce que c'est elle qui peut emmener les stats sur un autre niveau.
Alors Loïc, on est au bout de l'entretien et la dernière question est toujours identique pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines? Alors soit tu as un nom en tête, et auquel cas je t'invite à me le donner, soit sinon tu peux me parler d'un métier que tu aimerais découvrir en profondeur, puisque évidemment ce podcast s'intéresse à tous les métiers liés au football, hors terrain et sur le terrain. Est-ce que tu as une suggestion à me donner?
Eh ben écoute, en ce moment, je suis un peu dans ma période botanique, hein, donc avec mes fleurs, mes plantes. Donc je vais rester sur ce domaine-là. L'interview d'un jardinier, j'aimerais bien, parce que c'est toujours, enfin c'est vraiment un métier qui me fascine par rapport à justement, maintenant on parlait de recherche de la performance et tout. Alors un nom, j'en ai pas de particulier, j'ai celui du Paris Saint-Germain, Jonathan Calderwood, je crois qu'il
Ouais.
s'appelle. Donc après, je sais pas, pour l'interviewer, je sais pas si c'est simple ou pas, mais je sais qu'il avait été recruté à prix d'or, que tout le monde se l'arrachait et que son travail est une sorte de travail d'orfèvre de ce que j'ai pu comprendre. Donc ouais, ça me fascine en fait. Je me dis, l'entretien, encore une fois, on revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, mais voilà, que la pelouse devienne un enjeu majeur pour un club en dit long aussi sur cette recherche de performance. Et enfin, il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé ça, mais voilà, aujourd'hui, on a des jardiniers qui sont recrutés à prix d'or et qui doivent fournir un travail exceptionnel. Et c'est ce travail que je connais très peu au final, dont j'aimerais entendre parler si tu en avais l'occasion.
Eh bien, écoute, c'est noté et j'essaierai de répondre à cette requête dans les semaines et dans les mois à venir. Merci Loïc pour ta disponibilité et pour la qualité de cet entretien et à très vite.
Merci, Johan.
Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview, c'est en effet une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.